Il s'arrête. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une conférence qui sera à deux voix, de Louise Dapello, qui est à ma gauche, oui, et Aymeric Monville, que j'ose pas dire qu'il est à mon extrême gauche, mais il est là en tout cas, qui vont nous parler du marxisme vu d'Amérique latine. Et je dois dire que nous avions fait ce choix parce que l'Amérique latine est un continent, enfin partie du grand continent américain, dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et il nous a semblé à l'évidence qu'il y avait nécessité d'approfondir les choses pour mieux comprendre ce qui s'y passait. Voilà. Alors, je vais vous présenter très très brièvement nos deux conférenciers, Luis Dapello, qui est titulaire d'un doctorat en études latino-américaines de l'Université de Gênes en Italie. Il est spécialiste de la littérature latino-américaine en Italie et il dirige actuellement la collection de philosophie, histoire et culture Amérique aux éditions Delga, dont le directeur est juste.
Le centre de sciences humaines.
Voilà. Aymeric, je ne sais pas s'il faut le présenter parce que c'est un habitué.
Toute détermination et négation.
Voilà. Il est directeur des éditions Delga. Toujours un grand plaisir, évidemment, de travailler avec un éditeur qui. Publie avec autant de richesse des choses absolument passionnantes et nous sommes très très fiers d'avoir cette coopération avec Aymeric et en plus Aymeric est un de ceux qui animent le séminaire cercle universitaire d'études marxistes. Voilà, bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je crois que s'il arrive encore quelques auditeurs, eh bien, on les prendra avec un grand plaisir. Je vous conseille de remettre votre veste, hein, parce que peut-être pour des raisons d'économie, hein, où les radiateurs n'ont pas l'air de fonctionner vraiment très très fort. Et je crois que je vais laisser la parole à Luis. Alors, ils se sont partagés le travail, ils m'ont expliqué, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit eux qui expliquent directement.
Bon, tout d'abord, merci à Michel et Janine et au Cercle universitaire d'études marxistes pour m'avoir invité, pour nous avoir invités. Mon intervention s'appuie sur trois axes, fondamentalement. Le premier, on doit justement parler de la situation historico-économique politique de l'Amérique latine en général. Le deuxième axe s'appuie sur les théoriciens et donc je parlerai de Mariátegui et d'autres, c'est-à-dire les premiers théoriciens du marxisme. Et le troisième axe, ça sera le marxisme appliqué et interprété après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pour l'occasion, on a apporté Béatrice Arlo, qui est une critique culturelle argentine d'origine marxiste, évidemment, qui a écrit de nombreux bouquins, et dont les éditions Delga et la collection Amérique ont traduit cet essai sur Walter Benjamin. Et je l'ai apporté aussi parce que Mariátegui a écrit son ouvrage le plus célèbre qui a pour titre aussi sept essais sur l'interprétation de la réalité péruvienne. Donc l'ouvrage de Sarlo est un clin d'œil à Mariátegui. Donc tout s'explique, tout est connecté. Donc tout d'abord, je disais, la situation économique issue de la colonisation espagnole, on trouve un continent extrêmement complexe, extrêmement différent, extrêmement contradictoire. Tout cela parce que le continent, justement, est assez différent. Du Mexique à l'Argentine, en passant par la Caraïbe, on trouve que ce sont plusieurs Amériques latines. C'est-à-dire, moi, j'aime parfois définir l'Amérique latine comme une somme de différences Et je cite aussi l'historien mexicain Daniel Cosío Villegas, qui disait que dans l'Amérique latine, on trouvait aussi des extrêmes. C'est-à-dire, le Mexique et l'Argentine représentaient les extrêmes de l'Amérique latine. Et pourquoi je cite le Mexique et l'Argentine ? Parce que ce sont deux endroits fondamentaux pour la circulation de l'idéologie. Et dans ce cas-là, dans la circulation du marxisme. Donc la situation économique, politique et culturelle du continent se caractérise justement pour la rupture avec la puissance coloniale. On le sait et on l'a déjà fréquenté et lu peut-être. Donc une situation où la structure, la division administrative devient républicaine. Donc il y a un ensemble de républiques qui aussi s'inspire du modèle français dans la division administrative par exemple. Donc c'est une phase extrêmement compliquée, extrêmement complexe, parce que c'est une phase de construction ou de redéfinition de ce qui est cette nouvelle expérience, disons. Dans ce contexte qui est caractérisé aussi par des conflits, de nombreux conflits, conflits de frontières, conflits justement entre les oligarchies, conflits sociaux. Il y a aussi une grande transformation du point de vue démographique. Et cette transformation du point de vue démographique est le résultat de la grande vague migratoire qui arrive dans les Amériques. C'est-à-dire cette vague qui part de l'Europe pour rejoindre les Amériques. Mais non seulement elle part de l'Europe, elle part aussi du Moyen-Orient, elle part aussi de l'Asie. Donc on a la confluence dans les Amériques des continents dans une espèce de, entre guillemets, globalisation antelitterum ou mondialisation antelitterum, si vous voulez. Et donc la vague migratoire est extrêmement importante parce que elle apporte aussi de l'idéologie. Et quand je dis qu'elle apporte de l'idéologie, je me réfère aux grandes idéologies systématisées dans le XIXe siècle. Dans ce cas-là, le marxisme commence à circuler en Amérique latine grâce aux ouvriers européens qui arrivent principalement en Argentine. Donc, une première porte d'accès du marxisme, c'est l'Argentine. C'est pour ça que au début, je me référais aux extrêmes de l'Amérique, selon la définition de l'historien mexicain Daniel Cosío. Le marxisme arrive très fragmenté. Très fragmenté parce que, évidemment, on doit faire les comptes avec les difficultés. Les difficultés d'organisation. Les premiers syndicats, les premières associations d'assistance ouvrière. Donc, c'est curieux aussi le fait que le marxisme est diffusé aussi par certains anarchistes en Argentine. Donc, il ne se concentre pas à diffuser seulement les théoriciens de l'anarchisme, mais aussi Marx. Donc, les cercles ouvriers qui diffusent le marxisme comme ça, fragmenté, de façon fragmentée, font une magnifique œuvre de pédagogie populaire. C'est-à-dire que, malgré toutes les difficultés objectives et subjectives, ils commencent justement à faire circuler l'idée marxiste. Mais évidemment, on devra attendre le XXe siècle, c'est-à-dire le début du XXe siècle, pour commencer à avoir un autre marxisme, un marxisme un peu plus compact, disons. Parce que, évidemment, la mission des ouvriers dans la circulation des idées marxistes était organisée dans une sorte de vulgate, et je le dis avec tout le respect, évidemment, avec des brochures, avec des petits ouvrages comme ça. Et donc, on n'avait pas la connaissance ou l'accès qu'on a aujourd'hui ou qu'on a à partir des années 60 jusqu'à présent. Donc, dans ce contexte-là, il y a un pays où, justement, un pays extrêmement conflictuel, extrêmement différent, extrêmement, disons, j'utilise une redondance, extrêmement extrême, qui c'est le Pérou. Le Pérou, où il est né José Carlos Mariátegui. On doit dire que José Carlos Mariátegui est un exemple d'autodidactisme. Il est un autodidacte, fondamentalement. Il est issu d'une famille qui n'avait pas les moyens de lui financer une instruction universitaire. Donc, José Carlos Mariátegui est né dans une province du sud du Pérou, une province agricole est devenue après une province aussi productrice de cuivre. On a découvert des gisements de cuivre extrêmement importants. Et c'est la province de Moquegua, où Mariátegui naît en 1894. Je dois dire comme ça, j'ouvre une petite fenêtre pour dire que Mariátegui est né dans la dernière décennie du XIXe siècle, qui est d'ailleurs une des plus, moi je trouve qui est une des plus extraordinaires décennies qui clôture le siècle. Pourquoi ? Parce que dans cette dernière décennie, Walter Benjamin est né à Berlin en 1892. Antonio Gramsci est né en 1891 en Sardaigne, en Italie. César Vallejo est né en 1892 au Pérou aussi. Donc, et Jorge Luis Borges est né en Argentine en 1899. Donc, comme vous voyez, c'est une décennie extrêmement riche qui nous a donné des théoriciens, des écrivains, des penseurs extrêmement importants. Donc, je disais, Mariátegui naît dans cette province agricole, dans cette province extrêmement coupée du pays, parce que n'oublions pas que le centralisme a été un des mots extrêmement important des Amériques. Même si on a les exemples de fédéralisme, par exemple, on a quatre républiques fédérales, comme le Mexique, le Venezuela, l'Argentine, et le problème du centralisme n'a pas été résolu. Donc, les capitales représentent le centre et continue de représenter le centre. Donc, dans le cas de Mariátegui, à la fin du siècle et au début du XIXe siècle, vivre en province, c'était pas facile. C'était pas facile parce que, justement, il y avait cette coupure avec tout ce qui se passait, et tout ce qui se passait d'important, c'était dans la capitale. Donc, sa famille émigre à la capitale, à Lima, et donc s'établit à Lima où se passe pratiquement tout. Et Maria Tegui fait sa scolarité. Il est un excellent élève. Il est extrêmement intelligent, extrêmement. C'est une personne qui a une grande volonté d'apprendre. C'est un lecteur vorace. Donc, il a aussi des problèmes de santé. Donc, on peut faire le parallélisme avec Gramsci. Gramsci avait un problème de santé qui avait été le résultat d'une chute, d'une mauvaise chute. Donc, on a un Gramsci bossu et un Maria Tegui boiteux. Donc, à cause de ce problème physique, Maria Tegui est connue comme, avec le sobriquet de El Cojito Maria Tegui, c'est-à-dire le petit boiteux Maria Tegui. Et cela renforce sa volonté et il doit laisser l'école pour justement travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il commencera très tôt à travailler dans un journal. Et le journalisme sera, par exemple, le métier principal de Maria Tegui. Et ce journal sera un peu une espèce de refuge où ce jeune Maria Tegui apprendra pas mal de choses. Avec un début assez modeste, comme pratiquement un messager du journal, Maria Tegui avait une grande capacité d'observation. Et étant donné qu'il était un lecteur vorace, il commençait à lire aussi le style, à s'imprégner du style journalistique. Cela sera extrêmement important pour son développement et surtout pour son écriture. On trouve le Maria Tegui avec un style extrêmement fluide. Même les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne comme texte, c'est-à-dire c'est un texte organique, c'est pas un recueil d'écrits, on trouve ce style économe, très lisible, très direct, et cela fait de Maria Tegui un théoricien extrêmement lisible, extrêmement accessible. Maria Tegui entre dans le journalisme par pur hasard et deviendra un chroniqueur, ce qu'on dit aujourd'hui un chroniqueur people, en 1910-12, dans une revue qui voulait chroniquer la vie sociale de Lima. Et dans cette vie sociale, Maria Tegui peut avoir un contact direct avec la classe dominante du pays, et surtout la classe dominante qui avait son centre de pouvoir dans la capitale. Cette période de Maria Tegui est connue comme la Edad de Piedra, l'âge de la pierre. Parce que, d'après lui, il n'avait pas pris conscience du marxisme. Il n'avait pas pris conscience, mais il observait déjà tous les problèmes autour de cette capitale. Donc, Maria Tegui commence à écrire ses chroniques people, disons, avec un pseudonyme. Et ce pseudonyme est Juan Chroniqueur. Donc, il utilise le mot français et avec un prénom espagnol, évidemment. Donc, Juan Chroniqueur travaille dans des différents journaux et revues et commence aussi son contact avec les poètes, les écrivains, les jeunes écrivains, c'est-à-dire les écrivains de sa génération, qui se réunissent toujours dans un bistrot qui avait un nom français. Parce que n'oublions pas que la francophilie en Amérique latine, c'est un fait concret. Donc, cet endroit, ce refuge pour les jeunes poètes et écrivains venus de la province, comme Mariátegui, s'appelait Palais Concert, en français, Palais Concert. Donc, c'est le Palais Concert qui réunit la plupart de cette nouvelle, si on veut l'appeler così, comme ça, ainsi, cette nouvelle élite intellectuelle. Donc, Mariátegui peut lire ses contemporains, dans ce work in progress, hein? J'utilise le terme anglais, même si je ne l'aime pas, mais bon, ça donne un peu l'idée, de ce qu'ils sont en train de faire. C'est là où il connaît, par exemple, César Vallejo. Et César Vallejo sera son camarade et sera aussi un grand ami à Mariátegui. Et ils auront aussi un point en commun extrêmement important, la militance. Donc, Mariátegui est chroniqueur d'un côté, et il commence à s'intéresser à la politique, donc à la politique nationale. Pendant cela, il lit beaucoup, il continue de lire beaucoup, surtout des ouvrages européens. Mais encore, il n'y a pas le marxisme. Donc, la situation politique est extrêmement compliquée parce que l'histoire du Pérou est caractérisée comme d'autres histoires d'autres pays latino-américains par une alternance, une sinistre alternance entre militarisme et dictature civile aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des dictatures militaires, mais aussi des dictatures civiles. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'année 1919, que c'est une année extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coup d'État civil. Un coup d'État civil, en 1919, le 4 juillet, à l'œuvre d'un politicien civil du parti qui avait rompu avec le parti civiliste qui s'appelait Augusto Leguía. Augusto Leguía avait déjà été président de la République quelques années auparavant et Augusto Leguía était un banquier. Donc un banquier qui avait travaillé ses journées à Londres. Donc, comme vous savez, c'était une place, un emplacement financier extrêmement important à l'époque. Augusto Leguía, alors, inaugure une dictature civile qui commence à, justement, à réorganiser le pays dans le sens d'une modernité accélérée. C'est-à-dire que, disons que la première phase de modernisation du Pérou, de timide modernisation, si on peut la définir ainsi, commence à partir de Leguía en 1919. Donc Leguía voulait justement gouverner sans problème. Et on avait commencé déjà avoir l'opposition des premiers syndicats et des premiers cercles d'opposition ouvrière. Et les échos de la révolution russe arrivaient et en mettant en alarme cette classe dirigeante, qui ne voulait pas d'obstacle dans ce processus de modernisation. Cette modernisation est caractérisée par la pénétration extrêmement importante du capital états-unien. C'est-à-dire que le capital états-unien entre avec beaucoup de force au Pérou à partir de 1919. Avant, c'était le capital anglais, anglo-saxon, anglais, dans ce cas-là, qui avait financé d'ailleurs le processus d'indépendance et qui s'était installé à partir de 1820 jusqu'à 1920, plus ou moins. Donc plus ou moins un siècle de domination du capital anglais. Donc Leguía trouve aussi qu'il y a du danger de la part des intellectuels. Donc les cercles, la nouvelle élite intellectuelle, donc Mariátegui, Vallejo et d'autres, commencent à gêner le, entre guillemets, travail du dictateur civil. Donc Leguía, pour apparaître comme quelqu'un qui n'était pas dur, même si en vérité il l'était, on doit voir toute la répression qu'il a déclenchée dans des provinces, parce qu'il y avait aussi des rébellions paysannes dans les Andes, dues à la structure latifondière du pays. Leguía décide de envoyer en exil ce groupe de jeunes intellectuels. Et donc, il ne les arrête pas, donc il ne les emprisonne pas, mais il leur propose, avec un euphémisme, un exil. C'est-à-dire aller comme journaliste en Europe. Donc ça, c'était la formule. Donc, José Carlos Mariátegui et son ami César Falcón sont envoyés en Europe. José Carlos Mariátegui en Italie et César Falcón en Espagne. Mais il y avait aussi un autre jeune extrêmement inquiet qui, lui, par contre, avait été déporté. C'était Victor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre, c'est le théoricien, le plus important théoricien social-démocrate latino-américain, qui a eu une polémique avec Mariátegui, justement. Donc, avec ces exilés, on doit aussi citer un exilé aussi extrêmement important, César Vallejo. Et César Vallejo vient en France. Donc, Mariátegui en Italie, César Vallejo en France, César Falcón en Espagne, Haya de la Torre déporté au Mexique, où il fondera un mouvement continental, soi-disant continental, social-démocrate, anti-impérialiste, marxisant au début, après il deviendra réactionnaire évidemment, et il donnera origine aussi au groupe de guérilleros dans les années 60, qui s'appelait APRA. APRA, c'est un acronyme pour Alianza Popular Revolucionaria Americana. Donc un mouvement américaniste, si on veut, anti-impérialiste, mais moi, modestement, je le définirais un mouvement anti-impérialiste sentimental, parce qu'il avait rejeté le marxisme, et il avait aussi créé une sorte d'interprétation un peu farfelue de la théorie léniniste de l'impérialisme. Haya de la Torre. Bon, ça c'est autre chose. Donc, Ce mouvement continental, anti-impérialiste, nationaliste, voulait justement, avait aussi une caractéristique de modernisation, mais une modernisation en sens démocratique. Où, par exemple, il y avait des analyses des problèmes que analysera aussi Maria Tegui, mais dans le sens marxiste, quand il aura découvert le marxisme. Donc Maria Tegui en Italie, c'est-à-dire Maria Tegui en Europe, devient un très subtil observateur de la réalité européenne, pratiquement de toute la réalité européenne. Il n'y a pas de réalité de pays européen qui n'a pas été touché par Maria Tegui. Il commence justement à s'imprégner d'une sorte d'européisme, dans le meilleur sens du terme, en analysant non seulement la politique, les faits politiques, mais aussi la culture. Donc la culture européenne a une place très importante dans toute l'œuvre de Maria Tegui. Et la culture européenne, en tant que Maria Tegui, en tant que critique littéraire, lecteur critique littéraire. Donc, il y a un Maria Tegui théoricien, mais aussi il y a un Maria Tegui critique littéraire, homme de culture. Donc, en Italie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le fait le plus important pour Maria Tegui. C'est-à-dire deux faits extrêmement importants pour la vie de Maria Tegui. La découverte du marxisme et son mariage. Donc, la découverte du marxisme est un fait qui changera complètement la perspective, changera la vision de Maria Tegui, parce que le marxisme lui donnera ce plus qu'il cherchait depuis longtemps, mais qu'il n'avait pas trouvé. Donc, le marxisme chez Maria Tegui est un marxisme hétérodoxe. C'est l'un des premiers théoriciens marxistes hétérodoxes de l'Amérique latine. Avec cela, je ne veux pas dire qu'en Argentine, dans cette période, n'était pas en train de créer d'autres théoriciens. Mais les théoriciens argentins de l'époque étaient plutôt des théoriciens socialistes, pas marxistes. Donc avec une tendance, avec une inclination un peu social-démocrate. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs que il y a la fondation du Parti Socialiste Argentin, que c'est un parti fondamentalement social-démocrate, un parti qui est proche de la social-démocratie allemande, par exemple. Donc Maria Tegui, avec le marxisme comme outil d'interprétation de la réalité, commence non seulement à voir l'Europe, mais aussi le Pérou et l'Amérique latine. Parce que Maria Tegui devient aussi un attentif observateur de ce grand processus qui est la révolution mexicaine. Et avec cet outil-là, il écrira son ouvrage, l'un de ses ouvrages majeurs, c'est-à-dire les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne, où il décrypte de façon extrêmement complète pour l'époque ce qui était le Pérou, mais aussi le Pérou comme métaphore de la situation continentale, plus particulièrement aussi dans la zone andine. Maria Tegui, pourquoi il est hétérodoxe? Il dit fondamentalement, et cela on le trouve dans un de ses ouvrages, mais c'est un recueil d'articles politiques qui a pour titre Ideologia y Politica, idéologie et politique, il écrit une phrase qui deviendra la base, l'une des bases de son hétérodoxie. C'est-à-dire qu'il était persuadé du fait que le marxisme ne pouvait pas être ni calque ni copie. C'est-à-dire qu'il rejetait de façon extrêmement ferme les tentatives mécanistes d'application et de réception du marxisme. Et ce marxisme hétérodoxe, qui n'était ni calque ni copie, devait être une création héroïque. Mariátegui est très attentif en ce qui concerne la tradition, les traditions. Mariátegui est très attentif aussi en ce qui concerne le problème religieux. Le problème religieux, c'est un problème qu'on le trouve du nord au sud, partout en Amérique latine. Mariátegui est un lecteur de Nietzsche. Mariátegui a son Nietzsche à lui, on peut dire comme ça. Et la troisième internationale, avec cette théorisation hétérodoxe, le réprimande un peu. Donc il aura une opposition, il manifestera son opposition face au dogmatisme qui est en train d'être construit d'une certaine façon, et c'est pour ça que les rapports de Mariátegui avec la Troisième Internationale seront très tendus. Mariátegui a une position très favorable à la lutte et à la transformation en sens marxiste révolutionnaire du continent et du Pérou, parce que il ne met pas de côté son analyse de la réalité péruvienne, mais toujours en ayant une vision globale, une vision latino-américaniste. C'est-à-dire, c'est pour ça que Mariátegui est une espèce de phare dans la production idéologique du continent et dans la production du marxisme latino-américain. Et c'est pour ça aussi que Mariátegui est célébré, reçu, lu, interprété du Mexique jusqu'à l'Argentine, en passant par Cuba et peut-être en Haïti. On a l'ami Jean-Jacques Cadet là-bas. Je ne connais pas la situation haïtienne, mais j'imagine qu'il y a un Mariátegui en Haïti. Le courage de Mariátegui, le courage d'élaboration, le courage d'interprétation du marxisme, le courage d'utilisation de ce marxisme comme outil pour de cet outil comme instrument de transformation de la réalité sera toujours important. Malheureusement, Mariátegui a une vie très brève, donc il mourra à 36 ans en 1930, mais son élaboration, ses théorisations, ses analyses, on peut dire que c'est comme s'il avait vécu 50-60 ans. C'est-à-dire l'intensité de lecture, l'intensité de pensée, justement, aux transformations révolutionnaires et aux possibilités que cet instrument, comme le marxisme pouvait offrir au continent. Donc Mariátegui dans les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne, en appliquant la méthode marxiste, dit clairement que le problème du Pérou et par extension de la zone andine, c'est un problème tout d'abord économique, mais aussi ethnique, culturel. Donc le problème a de nombreux visages. Donc le problème, c'est l'exploitation. Le problème, c'est la domination de classe. Le problème, c'est un problème de hiérarchie. Le problème, c'est aussi, il est connecté aux accès très restreints, très réduits à la culture, par exemple. Et Mariette y est un précurseur. Par exemple, maintenant, il y a une sorte de mode, et je m'excuse de la définir comme ça, mais ça me semble un peu une mode, d'une certaine théorisation féministe. Mariette, dans les années 20, commençait déjà à avoir le féminisme. Et commençait à... Il essayait à le définir, à le chercher. Donc, on a cet intellectuel qui est extrêmement complet. On a cet intellectuel qui voit pratiquement tout ce qui fait partie de la réalité. Et de l'actualité aussi. Donc, Mariátegui est un analyste très subtil et très perspicace du phénomène fasciste, par exemple. Mariátegui est un observateur de la politique française, de l'Espagne, de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Asie. Même il prévoit une sorte de décolonisation de l'Asie dans les années 20. Et c'est surprenant parce que vraiment on parle tant de la globalisation dans cette période de la mondialisation, mais vraiment on a un théoricien global. Un théoricien qui a cette grande vision du monde. Il a une cosmologie, si on peut dire comme ça, très vaste pour l'époque. Mariátegui, il y a peut-être une chose qui n'avait pas vu Mariátegui, et ce n'est pas évidemment un reproche, mais... pour faire le parallélisme avec Gramsci, un concept qu'il n'avait pas développé, mais qu'il a développé Gramsci, c'était le concept d'hégémonie. Mais Mariátegui, dans l'œuvre de Mariátegui, si vous lisez pratiquement toute l'œuvre de Mariátegui, on voit qu'il y a des éléments. Il n'y a pas le concept, mais il y a des éléments. Et par rapport à ce que Gramsci avait théorisé avec tant de clarté, c'est-à-dire l'hégémonie. Donc, Mariátegui inspirera après des mouvements politiques, des mouvements des partis, des groupes politiques, inspirera aussi des luttes politiques. Sera toujours une référence de la gauche, mais de la gauche révolutionnaire, pas d'une pseudo-gauche. Maintenant, ceux qui se définissent gauche au Pérou, par exemple, ont une espèce de honte de Mariátegui. On l'a mis dans le tiroir. Même un groupe comme Sendero Luminoso, qui a pris son nom d'une phrase, il a extrapolé Sendero Luminoso d'une phrase de Maria Tegui, avait, je pense, très mal lu Maria Tegui. Hein? Même s'ils reconnaissaient en quelque sorte, ils s'inspiraient en quelque sorte de Maria Tegui, ils l'avaient très mal lu et très mal compris. Mais, par exemple, Sendero Luminoso a son origine dans cette phrase que le socialisme arrivera par les sentiers lumineux de la victoire. C'était la phrase de Maria Tegui. El socialismo llegará por los senderos luminosos de la victoria. Donc, Maria Tegui, c'est une espèce de véhicule, moi je le définirais modestement, une espèce de véhicule pour la grande élaboration du marxisme en Amérique latine. C'est le jalon de la première théorisation marxiste, sans être un homme de l'académie et sans être un intellectuel comme on les connaît, un intellectuel lié à certains milieux. Tout d'abord, c'est un, comme je disais, un journaliste, c'est un écrivain, c'est un critique. C'est un homme libre qui n'a pas eu besoin de sortir d'une institution. Il s'est construit lui-même. Et ça, c'est le grand mérite de Maria Tegui. Hein. Comment être autodidacte et comment pouvoir être un théoricien. Et surtout, sans une formation classique, universitaire, si on peut la définir ainsi. Donc, Maria Tegui est la figure centrale, c'est-à-dire, je ne sais pas si avec un peu de tort ou avec un peu de raison, on pourrait dire que Maria Tegui, c'est le Gramsci latino-américain. Non. Maintenant, j'essaierai de synthétiser un peu pour ne pas enlever, voler du temps à Emmerich, mais je voudrais me concentrer sur le troisième axe de cette intervention, c'est-à-dire le marxisme appliqué et interprété après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour le marxisme, pendant les années 30 et 40 en Amérique latine et même pendant les années 50, ça a été extrêmement dur à cause des grandes luttes et à cause des grandes de la grande répression qu'il a eue contre les Parti communiste qui s'était créé d'ailleurs dans les années 20 comme en Europe et comme conséquence de l'influence chaque fois plus grande des États-Unis, donc l'influence impérialiste états-unienne dans le continent. Donc il y a eu, d'après moi, une première phase de ce que j'aime appeler, parce que je pense que l'idée est assez claire, la première phase du nettoyage idéologique. Donc le marxisme a dû se confronter avec cette première phase de nettoyage idéologique. Donc des dictatures militaires, une féroce répression contre les syndicats aussi, d'inspiration marxiste, contre les partis, contre les intellectuels. Donc une première phase d'exil aussi des intellectuels qui se sont formés à partir du marxisme. Nous sommes évidemment en pleine guerre froide. La guerre froide crée aussi une deuxième phase de nettoyage idéologique qui sera plus féroce à partir des années 60, années 70 jusqu'aux années 80. Mais c'est aussi une phase extrêmement intéressante parce que les partis communistes qui, dans certains pays, étaient restés minoritaires comme organisation politique, décident de, dans certains cas, de collaborer avec le pouvoir. Donc, il y a des ruptures à l'intérieur des partis communistes et cela donne la naissance au mouvement guérillero dans tout le continent. Donc, une revendication du marxisme, évidemment, de la part des mouvements guérilleros, une réélaboration du marxisme, parce qu'ils considèrent que cette rupture est le résultat d'une politique assez étroite des partis communistes avec Moscou, avec un marxisme pratiquement congelé ou bien atrophisé. Donc le marxisme continue de se réélaborer dans le mouvement guérilla. Et on verra les apports de Ernesto Guevara, par exemple, les apports du castrisme, les apports en Amérique centrale, avec deux mouvements extrêmement importants de lutte armée, au Salvador, au Nicaragua, au Guatemala, par exemple, où les inspirateurs n'étaient pas marxistes, ils étaient nationalistes comme Augusto César Sandino, mais ils étaient anti-impérialistes, ou Farabundo Martí en Salvador. Mais la nouvelle dirigeance guerrière se reconnaissait dans ce marxisme, un marxisme évidemment réélaboré. Si on veut dire comme ça, un nouveau marxisme. Donc, le marxisme politique est caractérisé en Amérique latine par ces deux institutions. Les partis traditionnels, les partis liés en quelque sorte à Moscou, et les mouvements de guérilla qui naissent à partir des années 60, à partir de l'expérience cubaine, parce que l'expérience cubaine, comme nous le savons, est un autre phare pour la constitution organisation de la guérilla. Et dans ce contexte, il y a aussi une volonté de la part des intellectuels de présenter, de diffuser les œuvres complètes de Marx. Donc, à partir de l'université, à partir de l'académie, le marxisme commence à être aussi un phénomène éditorial. Et où ça? En Argentine et au Mexique, dans les deux extrêmes de l'Amérique, des Amériques. Et cela pourquoi? Parce que le Mexique et l'Argentine ont constitué une industrie éditoriale de premier ordre. Et le Mexique a eu, disons, après sa révolution, a eu un système soi-disant démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des dictatures comme en Argentine qui s'alterner avec des expériences de démocratie entre guillemets civile. Le Mexique donc était aussi une terre d'asile. Donc cela a permis à nombre d'exilés de s'établir au Mexique et de travailler au Mexique et de travailler dans l'industrie éditoriale. Et je cite maintenant un cas extrêmement important de traduction de Marx et de Gramsci en espagnol, parce que on ne doit pas oublier que l'Espagne franquiste exerçait une censure féroce et les œuvres de Marx et de Gramsci ne pouvaient pas être traduites en espagnol. Donc les deux pays qui ont contribué à diffuser et à relancer d'une façon organique, l'œuvre de Marx ont été le Mexique et l'Argentine. Et principalement le Mexique avec un exilé d'exception, José Arico. José Arico a été un théoricien, mais surtout a été un traducteur. Et José Arico a commencé dans une maison d'édition importante mexicaine qui s'appelle Siglo XXI, avec une collection extrêmement importante qui s'appelle Biblioteca del Pensamiento Socialista, Bibliothèque de la Pensée Socialiste, une œuvre extraordinaire, remarquable de traduction, mais de traduction de pratiquement l'entière œuvre de Marx. Engels, Gramsci, les Allemands, les théoriciens allemands. Donc tout cela pouvait circuler et Marx, Engels et tous les grands théoriciens pouvaient être lus. C'est-à-dire que moi, je trouve assez marrant, par exemple, quand les États-Unis nous disent « Ah bon, nous avons découvert Benjamin, nous avons découvert Marx, nous avons découvert Gramsci. » C'est pas vrai. Benjamin, Gramsci et d'autres sont arrivés en retard aux États-Unis. Et en Amérique latine, on commençait déjà à les traduire et à les diffuser. Donc le benjaminisme états-unien ou le gramscisme états-unien, vraiment, comme on dit en italien, mi sembra assai divertente, non? Il me semble assez marrant. Donc, et il y a, je vous raconte aussi une anecdote qui peut, d'une certaine façon, vous expliquer comment le livre clandestin circuler dans l'Espagne franquiste. C'est-à-dire qu'à travers ces initiatives éditoriales mexicaines et argentines, Marx traduit, et Gramsci traduit, arrivait en Espagne clandestinement. Il y avait un réseau de libraires qui vendaient les éditions de Siglo XXI et des autres maisons d'édition latino-américaines de façon extraordinaire. C'est-à-dire que les étudiants, certains étudiants espagnols et les lecteurs espagnols avertis pouvaient lire finalement en espagnol ceux qui ne pouvaient pas lire parce que, comme le grand poète espagnol Rafael Alberti avait défini l'Espagne franquiste, c'était un cimetière spirituel de l'Occident. Donc, le marxisme, c'est aussi sa traduction. Et c'est aussi sa réception en Amérique latine. Donc, à partir des années 60 jusqu'à présent, je pense que une grande partie, pour ne pas dire les œuvres complètes du Mega, parce que vous savez que Marx Engels et en allemand, je ne sais pas les deux.
Gesamtausgabe.
Exactement. Ne sont pas encore pas encore traduits en espagnol, mais les œuvres principales de Marx ont mis à disposition tout cela. Et par exemple Arico, en continuant de parler de José Arico, à travers comment est-ce que Arico a réussi dans un premier temps à diffuser dans la traduction certains théoriciens du marxisme et Marx lui-même, à travers une revue extrêmement importante, une revue qui était proche du Parti communiste argentin, Pasado y Presente. La revue Pasado y Presente, c'est l'initiative qui déclenche cette nouvelle période de traduction de l'œuvre de Marx et de l'œuvre de Gramsci. Donc, comme traducteur et comme nouvel théoricien, José Arico est une sorte de deuxième Mariátegui, disons, pour la traduction de Marx. Non? D'ailleurs, Haricot a fait un recueil de d'essais critiques sur Mariátegui. Donc, Mariátegui, le marxisme latino-américain. Non? Donc, ça pour vous montrer les connexions, les nombreuses connexions, et c'est pas un hasard, entre la traduction, la circulation, la théorie du marxisme latino-américain. On doit dire, et je m'approche de la fin de mon intervention, que si on compare la situation aurorale du marxisme, c'est-à-dire le marxisme du début, comment il était diffusé, comment il était reçu à travers les cercles ouvriers dont je vous ai parlé au début, à travers les associations d'ouvriers européens en Argentine, et la situation jusqu'aux années 80 ou 90 du dernier siècle, ou même aujourd'hui, on doit dire que l'histoire de la réception du marxisme ou l'histoire de la traduction ou de la diffusion du marxisme a été extrêmement mouvementée, extrêmement accidentée. N'oublions pas qu'il y a eu une sinistre copie des grands ressemblements pour brûler les livres. Donc cela se produit au Pérou dans les années 60 sous un gouvernement soi-disant démocratique. Cela s'est produit en Argentine dans la période de la dictature 1976-1983. Cela s'est produit en Amérique centrale. Cela s'est produit pratiquement dans tout le continent. On a brûlé les livres marxistes ou des théoriciens marxistes, Marx lui-même. Il y avait un ministre de l'Intérieur péruvien qui était tellement anticommuniste, tellement bête, qui disait que on devait absolument confisquer les livres qui avaient une couverture rouge et les brûler parce qu'ils étaient forcément communistes ou forcément marxistes et ils étaient un danger public, non? Et cela c'était un ministre de l'Intérieur d'un gouvernement soi-disant démocratique, c'est-à-dire le gouvernement qui d'ailleurs a assassiné le mouvement guerrillero péruvien dans les années 60. Donc, je voulais vous remercier pour l'attention, malgré, la synthèse que j'ai dû faire pour développer mon intervention sur ces trois axes. Merci beaucoup.
Bien, on va continuer avec Aymeric. C'est pourquoi vous n'avez choisi aucune couverture rouge, là, c'est ça?
Oui.
Bon, d'accord, je comprends.
Ça pouvait nous occasionner des problèmes.
C'est, on s'est demandé s'il fallait donner des signes extérieurs de bolchevisme éhonté, et on s'était dit que non, qu'on serait censuré deux fois plus que nous ne sommes. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on on arrivait avec du bleu et du vert. Voilà.
Du vert espoir, et ou voilà, du vert islam, si on veut.
C'est vrai que... Aymeric, bon. Un peu plus fort.
Oui, pardon, excusez-moi.
Prends le micro.
Oui, d'ailleurs, à propos de ces livres.
Tu peux prendre le micro si tu veux.
Non, je vais parler fort.
Bon,
oui,
d'accord.
Oui, non, c'était un tel plaisir d'écouter Louise Dapello qui a un intérêt très, très poussé pour la littérature, y compris la littérature sud-américaine. Ça, il n'en a malheureusement pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une autre de ses cordes, de nombreuses cordes à son arc, et ça se voit qu'il a des talents de conteur. Et effectivement, on rentrait dans cette espèce de voyage intellectuel dans le marxisme sud-américain qui a été justement, contrairement à la littérature latino-américaine en France, très peu développé. Et donc justement, moi, en tant qu'éditeur, j'avais repéré un certain nombre de lacunes éditoriales. Ce sont même plus des lacunes, ce sont littéralement des gouffres. Hein. Et effectivement, puisque là, il y a peu de temps qui m'a imparti, parce que je crois que il faut libérer la salle assez vite.
20 heures, tu as jusqu'à 20 heures.
Ah bon, d'accord, ok, bon, bah, alors tout va bien. Puis, bah, de toute façon, je serai quand même bref, parce qu'il faut aussi laisser la salle répondre. Et puis surtout, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions qui ont émergé après cet exposé très riche. Et peut-être préciser que José Carlos Paretegui a été traduit en français. Les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne ont été publiés par Maspero en leur temps. C'est à l'époque qu'il y avait encore une institution qui faisait cet effort justement de passeur en fait. Et depuis rien. Il y a quasiment rien qui a été publié sauf ce livre que nous avons fait qui s'appelle Défense du marxisme, qui est ici et qui concerne notamment un certain nombre d'articles sur beaucoup d'articles sur la France de l'époque qu'il a connue, hein, et notamment des polémiques avec des gens comme Henri Demant par exemple, hein, qui commençait déjà à teinter son marxisme d'une interprétation social fascisante, hein, déjà à l'époque. Il parle d'Action française, il parle de phénomènes de ce type. Et bientôt, nous allons publier une anthologie de l'ensemble de ces textes, parce que, comme vous voyez, je pense qu'on a bien compris à l'exposé de notre ami Louis D'Apello que ce qui est intéressant, c'est ce rapport, j'allais dire, épidermique, capillaire à la réalité, à l'ensemble de ces... de son caractère le plus chatoyant, le plus divers. Je pense qu'il caractérise ce marxiste sud-américain à partir du moment où justement il se refuse d'être un simple calque et copie, comme il l'a bien, comme M. D'Apello l'a bien rappelé. C'est qu'à la fois on sort de l'universel abstrait et on sort en même temps du folklorisme. Par exemple, la littérature sud-américaine explose justement le terme consacré, on appelle ça le boom, à partir des années 50-60. On va publier aussi d'ailleurs un livre là-dessus qui s'appelle Entre la plume et le fusil, c'est-à-dire sur les thématiques en fait du mouvement de ce mouvement littéraire sud-américain dont les noms vous diront évidemment beaucoup si on évoque Gabriel García Márquez ou
Carlos Fuentes,
Vargas Llosa, hein, avant qu'il ne vire réactionnaire. Voilà, enfin, il y a un certain nombre d'auteurs. Et tout ça aussi est lié à l'émergence de la révolution cubaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser en fait ce boom littéraire sans ce renouveau d'un certain espoir. Et ne serait-ce que les cadres de pensée, même... ce qui caractérise l'Amérique latine avant ces mouvements-là, c'est qu'il y a un déficit. C'est même pas la révolution d'octobre qu'il s'agit de refaire, c'est même la révolution française, c'est-à-dire un grand déficit de révolution bourgeoise, du caractère républicain. Et donc à partir du moment où on a ce type de littérature qui refuse à la fois l'universalisme abstrait, c'est-à-dire le calque d'une littérature européenne qui s'adapte en même temps à sa réalité, mais qui en même temps refuse le folklorisme, et justement, c'est toi, Louis, qui m'a fait lire un texte de Maretegui qui était très drôle, où justement il se moque, parce qu'il parle de cette réalité péruvienne, mais lui il se moque aussi hein, de ce folklorisme facile, des grandes dames liméennes du 19e siècle, avec grand crinoline, enfin je crois qu'il y a des termes qui sont plus adaptés, tu me rappelleras lesquels.
Les tapadas.
Voilà, les tapadas, etc. Ouais. Voilà. Et ce qui faisait un petit peu le un peu comme les mauvais romans qu'on a connus nous aussi au XIXe siècle. Donc quand on est, comme dit Hegel, dans ce cadre-là où on n'est plus dans le particulier, on est dans l'individu, c'est le particulier réfléchi sur le même et par là élevé à l'universel, on fait ce travail nécessaire que doit faire tout marxiste, c'est l'étude concrète d'une situation concrète, et qui caractérise en fait effectivement toute cette génération. On a parlé de Gramsci, on peut parler aussi de Lukács, c'est un exact, presque contemporain de ces gens-là. C'est ces gens-là qui ont refusé l'interprétation mécaniste du marxisme qu'avait la seconde internationale, et qui se sont penchés justement sur les particularités nationales. Et bien sûr, on peut citer aussi Lénine, évidemment, hein, qui est, en plus d'être un homme d'action, est un théoricien. Et d'ailleurs, l'exemple le plus symptomatique de tout ça, c'est l'article de de Gramsci qui s'appelle « La révolution contre le capital ». C'est un texte provocateur mais dans le terme. Mais ça, la révolution contre le capital, c'est pas juste la révolution contre le capital amassé, hein, on s'en rapporte ça, c'est la révolution même contre le livre. C'est-à-dire contre, ça voulait dire contre l'interprétation mécaniste du capital qui, selon laquelle le marxisme n'aurait pas pu avoir lieu en Russie. Enfin, on sait très bien que Marx, justement, avait lui-même envisagé que la révolution puisse se produire en Russie. Il parlait, justement, il y a des lettres célèbres à Vera Zasulich. D'ailleurs, ce qui est très drôle, j'ouvre une parenthèse, je la referme très vite, c'est que Engels, essayant de terminer l'édition des livres 2 et 3 du Capital, se plaignait du fait qu'il y avait 3 mètres cubes de livres en russe chez Marx, et que Marx s'était plongé dans l'étude du russe avec une passion telle que ça l'avait détourné justement de l'achèvement du Capital, précisément, ce qui est évidemment une stratégie névrotique que beaucoup d'intellectuels connaissent. À un très faible niveau, tout le monde a ce genre de choses. Mais chez Marx, effectivement, c'était pas simplement de la procrastination, ça avait aussi peut-être cette espèce de préscience de l'importance justement d'une réalité nationale qu'on devinait guère, et qui était celle de l'arrivée du capitalisme en Russie. Capitalisme d'ailleurs dont on oublie qu'il était la bourgeoisie russe était ce qu'on nous dit aujourd'hui. Il y a une problématique évidente où on dit toujours oui, mais il y avait déjà, c'était un pays déjà très développé, il y avait un fort capitalisme. Oui, c'était déjà un capitalisme fortement étranger, c'était une bourgeoisie comprador. D'où d'ailleurs le lien avec l'Amérique latine où il y a une bourgeoisie comprador très forte. Voilà, je ferme toutes ces parenthèses que j'ai ouvertes et je reviens un peu à l'Amérique latine. Donc oui, il y avait un nombre de lacunes éditoriales extrêmes. Maria Tighi, comme je vous disais, on n'a pas de diffusion satisfaisante de l'ensemble de son œuvre et de sa richesse. Je pense à quelqu'un dont on va bientôt publier l'œuvre la plus importante, Adolfo Sanchez Vázquez. D'ailleurs, je croyais que Luis allait en parler. Il a parlé de José Rico, qu'on va aussi publier. Mais parce qu'Adolfo Sanchez Vázquez était aussi un exilé espagnol au Mexique, hein, puisque le Mexique a joué un rôle précurseur, puisqu'il était le pays révolutionnaire avant Cuba. Et je découvre à quel point d'ailleurs Adolfo Sanchez Vázquez a eu un rôle dans la pensée cubaine, y compris dans ses idées esthétiques. C'est quelqu'un d'extrêmement important et dont nous n'avons aucune traduction encore en français. Donc voilà, ce qui contraste complètement avec la situation du roman, où là vraiment on a le même schéma de maturité révolutionnaire consciente, mais dans le domaine théorique. Nous sommes en retard, mais là, ça pose la question de notre... J'aime pas beaucoup ce terme-là, parce que, j'allais dire, notre provincialisme, et je sais, d'autant plus en tant qu'éditeur, qu'on lit beaucoup plus en province qu'à Paris, où on a plus d'occasions de sorties futiles qu'ailleurs, donc j'ai pas du tout... Je suis moi-même parisien, mais j'ai plutôt du respect pour les provinciaux, mais ce qu'on appelle le provincialisme, c'était surtout au sens où ce qu'il était avant, disons, la diffusion de grands moyens de communication, c'est-à-dire un esprit strictement étriqué, c'est le cas de la France. Hein, on a un pays très faible en traduction, si je compare par exemple avec l'Italie. Alors justement, je voulais, ma seule raison de parler de l'Amérique latine, que je connais finalement très peu, et c'est pour ça que j'ai la chance justement d'avoir un ami qui s'occupe d'une collection, c'est que je voulais présenter ce livre de Elias Rossel Palti qui consisterait à un autre bout de la chaîne, puisqu'il n'était pas question évidemment de fût-ce en deux heures de prétendre vous présenter la pensée entière d'un continent, mais ce serait pourquoi l'autre bout de la chaîne, non seulement l'autre bout de la chaîne parce que au sens c'est un auteur contemporain qui est venu d'ailleurs récemment à Paris, un auteur argentin, mais aussi parce que là, il ne s'agit pas simplement du marxisme qu'il est produit par l'Amérique latine à propos de l'analyse de sa propre, disons, introspection, mais où il est c'est le prix sur une manière de penser différemment notre propre marxisme à nous, en Europe et particulièrement le marxisme français. Donc c'est pour ça que les auteurs emblématiques sont Derrida, Badiou, Zizek. Là on voit aussi un certain nombre d'anglais, d'anglo-saxons comme Jameson, Anderson. On peut penser aussi c'est tout l'ensemble du marxisme post-structuralisme. C'est intéressant parce que il y a quelque chose qu'on peut-être concerne mal quand on connaît mal ce continent. C'est son extrême, comme c'est un continent qui a été fait de diverses vagues de migration, c'est un continent qui se tient extrêmement au courant de l'ensemble de la production intellectuelle. Si on parle des Argentins, je crois que c'est vraiment avec le Mexique justement, mais c'est un des grands pays intellectuels d'Amérique latine. Je crois que c'est pas pour rien que l'auteur le plus célèbre, c'est Borges, dans son côté à la fois universel, kaléidoscopique, encyclopédique. Et on peut en dire autant des intellectuels argentins, et Palti, effectivement, de ce côté-là, ne fait pas exception. Et c'est pour ça que l'attention qu'il met à essayer de résumer les grandes problématiques du marxisme le plus connu, le plus célébré, est évidemment pas sans intérêt, parce qu'il a une forte capacité de synthèse. Alors c'est un marxiste particulier, justement il parle d'une réaction d'une tradition politique face à sa crise, crise entre guillemets. Alors, c'est comme je vous dis, c'est un marxiste que moi, personnellement, en tant qu'éditeur, d'ailleurs, j'ai avec lequel j'ai très peu frayé, puisque j'ai développé plutôt des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, c'est-à-dire ni dans l'école thusserienne, ni même dans ce qui a suivi, c'est-à-dire après le structuralisme, le post-structuralisme, et même si ce milieu est très, très homogène. Mais je me suis bien rendu compte qu'après 14 ans de survie éditoriale et puis de résistance, malgré tout, avec une certaine capacité de résilience, mais nous étions effectivement marginaux dans le domaine du marxisme, en tout cas du marxisme officiel. Donc raison de plus pour laquelle il fallait un livre qui étudia de manière approfondie, synthétique et le plus honnête possible le marxisme tel qu'il est célébré mondialement. Et ce qui est intéressant justement, c'est que c'est précisément, ce n'est pas un pamphlet. Ce n'est pas un livre, c'est un livre le plus objectif possible. Mais effectivement, c'est pas l'ensemble du marxisme. Personnellement, j'ai toujours été attentif à justement en dehors de cette tradition issue d'un certain structuralisme et en même temps qui doit beaucoup à Sartre. Je pense qu'il y a beaucoup à chercher du côté d'un marxisme-léninisme rénové. Attentif à la dialectique, à l'étude concrète du mode de production. Mais on en parlera après. Mais le fait est que bon, ce qui est intéressant, surtout dans cette pensée française, parce que c'est la pensée française, enfin c'est ce marxisme français-là qui a été, j'allais dire, le plus symptomatique, c'est qu'on a une évolution. Déjà, on commence avec ce qui est assez intéressant, justement, c'est que les penseurs les plus emblématiques, finalement, de ce marxisme français sont des penseurs qui ne sont pas stricto sensu marxistes. C'est-à-dire, quand vous avez Sartre, si on regarde bien les textes dans le détail, qualifiait le marxisme de pensée pré-critique. Il était d'accord avec cela, avec Merleau-Ponty. Ce qui, d'une certaine manière, est de ne pas comprendre à quel point, justement, le passage pré-critique au sens pré-kantien. C'est pas comprendre à quel point, justement, même si nous sommes tous d'accord sur l'apport essentiel du kantisme qui peut se résumer de la manière suivante, c'est-à-dire la raison mesurant ses forces, il y a un aspect, c'est mal comprendre le fait qu'à partir de Hegel, il y a une sorte de criticisme au carré, d'une certaine manière, le refus de la chose en soi kantienne. Donc bien sûr, on intègre le caractère actif de la connaissance, c'est ce que fait Marx dès la première thèse sur Feuerbach. Effectivement, on peut trouver un marxisme vulgarisé qui est insuffisamment critique, c'est-à-dire qu'il ne rend pas compte du fait que justement c'est la raison qui produit en elle-même ses propres, ce qu'elle voit. La raison voit pas tant ce qu'elle produit. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est un Sartre développe une sorte d'hypersubjectivisme, en fait, si vous voulez, ou autant dans sa période existentialiste que dans sa période. La période liée à la critique de la raison dialectique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est encore ce sujet, le sujet sartrien, sur lequel toute l'attention est focalisée, ce sujet est quand même un sujet encore en situation. Vous savez, c'est le nombre de l'ensemble des textes politiques de Sartre est intitulé « Situation ». C'est quelque chose qui, effectivement, intéresse beaucoup l'existentialisme sartrien. Et le marxisme, malgré tout, au moment même où il polémique le plus avec lui, où il essaye, disons, de trouver un critère de validité de la subjectivité, un peu comme si Kierkegaard essayait d'émerger par rapport à Hegel, c'est toujours la revendication du sujet. Néanmoins, à ce moment-là, dès en 1960, Sartre n'en dit pas moins que le marxisme est, comme vous le savez, c'est une phrase célèbre, l'horizon indépassable de notre temps. Voilà. Pourquoi est-on passé de cette époque à, j'allais dire, son équivalent en termes bourdivin, c'est-à-dire même statut, même champ, même avec sans doute un peu moins de prestige, sans avoir le prestige littéraire qu'avait Sartre. Mais ça, il est indépassable de ce point de vue-là, parce qu'il coche toutes les cases, autant littéraires que théoriciennes. Je pense à Badiou, c'est-à-dire le penseur de gauche, le penseur identifié marxiste. Pourquoi en 2002, Badiou nous dit-il, le marxisme est un lieu inhabitable. Comment est-ce qu'on passe, alors que Badiou d'ailleurs se montre à quel point il est redevable à Sartre, comment est-ce qu'on passe du marxisme horizon indépassable de notre temps au marxisme lieu inhabitable? Donc il faut comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire non seulement non pas l'affrontement entre existentialisme et structuralisme, mais leur départ, en fait, l'opposition en fait assez abstraite entre l'individu et les structures, alors que le marxisme passe son temps finalement à essayer de montrer la possibilité d'émergence d'un sujet dans une situation donnée. Mais c'est une problématique qui est jugée par beaucoup, parce que ce qui est intéressant avec Palti, c'est qu'il essaye d'analyser ça en termes de symptômes de la manière d'interpréter le marxisme. Il montre que pour beaucoup d'auteurs qui vont être structuralistes, post-structuralistes, cette problématique est jugée la dialectique entre l'individu et les structures, entre le sujet et la situation, est jugée 19e-miste. Et peu à peu, donc non seulement on va avoir un hyper-subjectiviste qui va se mettre en scène, on le voit bien sûr avec l'existentialisme sartrien, qui va être renforcé par cette espèce de production du sujet contre le pratico-inerte qui est la critique de la raison dialectique, mais qui va culminer dans le post-structuralisme, parce que le sujet devient... Je vais vous citer les phrases qui me semblent le plus essentielles pour comprendre ce statut du sujet. Pour Badiou, s'il existe un événement, son appartenance à la situation est indécidable du point de vue de la situation elle-même. Et Palti commente, la scission subjective se produira non pas maintenant de l'extérieur vers l'intérieur du cadre structurel, ce n'est plus une sorte de structure qui entoure en fait le sujet, par une sorte de sollicitation que ce cadre structurel exerce sur la force, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le sujet sera celui qui convoquera le reste, la vérité qui s'ouvrira ainsi de l'intérieur du champ de l'idéologique et de cette façon donnera lieu à l'événement. Vous savez que l'être et l'événement, c'est la thèse de Badiou, c'est ce sur quoi il met le plus l'accent. C'est-à-dire que on a troqué en fait l'engagement sartrien en situation pour une sorte de lieu d'événement dans une situation indiscernable. C'est-à-dire on a renforcé encore ce subjectivisme. Et c'est pour ça qu'on arrive en fait il me semble d'une certaine manière que c'est lié quand même à une situation globale qui est celle de la montée de l'individualisme, la montée de l'idéologie dominante et essentiellement celle de la classe dominante, la montée quand même d'un certain libéralisme. Cet hyper-subjectivisme qui nie de plus en plus l'objectivité et ne laisse pas de... semble évidente, il semble lié en fait à une condition générale. Alors après, vous avez justement, c'est intéressant dans ce va-et-vient entre l'Amérique latine et la France, c'est que des gens, par exemple l'Argentin qui est très connu et qui aujourd'hui a une influence par sa femme, j'allais dire par sa veuve puisque lui est décédé, vous pensez à Ernesto Laclau que je croyais qu'il fallait prononcer avec une diphtongue pour l'hispaniser, c'est genre Laclau, mais en fait non, c'est un nom d'origine française, comme Chauderlot de Laclau, sauf que ça ne s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Donc Ernesto Laclau et donc son épouse aujourd'hui qui s'appelle Chantal Mouffe, hein, qui est très active, enfin qu'on voit très fréquemment, sont des gens qui ont théorisé le populisme de gauche. Bon, ce qui est intéressant par rapport à faire un lien avec ce que je viens de dire, c'est que la situation du sujet chez Laclau est la suivante. Je le cite, tel qu'il est cité par Palti, la radicalité d'une politique ne sera pas le résultat de l'émergence d'un sujet capable d'incarner l'universel, mais de l'expansion et de la multiplication de sujets fragmentaires, partiels et limités. Donc vous avez aujourd'hui toute cette espèce de constructivisme à partir d'un certain nombre de minorités, donc qui reprend déjà les intuitions marcusiennes, hein, sur ces nouvelles minorités qui doivent remplacer le prolétariat, qui pose le problème d'ailleurs de l'émiettement du mouvement ouvrier, parce que la force du mouvement ouvrier avait été de synthétiser un certain nombre d'ensemble des luttes. Hein. C'est ce cher Domenico Losurdo qui nous a quittés bien trop tôt là, récemment, qui disait que sans l'ensemble du mouvement ouvrier, les trois principales discriminations qui sont celles sur l'argent, évidemment, sur l'origine ethnique ou sur le sexe, ces trois, on n'aurait pas pu penser à un tel recul qui a eu lieu depuis, disons, 200 ans, sans le mouvement ouvrier. Mais donc cet émiettement du sujet, tel qu'on nous propose, et effectivement, pourquoi est-ce que ce populisme marche d'une certaine manière? Parce qu'il répond en fait à une demande non conscientisée, globale, de ces sujets qui sont déjà émiettés en communauté. Il leur donne une sorte de prêt-à-porter politique, au lieu justement de faire ce travail qui était celui d'un parti communiste digne de ce nom, c'est-à-dire de fédérer l'ensemble des luttes contre le capitalisme. En les respectant, leurs origines, mais en étant capable de répondre à presque à l'ensemble du sujet, mais en pratiquant ce qu'on cherche déjà dans la rue à exercer, ce qu'on appelle le tout ensemble. Bon, cette espèce de rareté du sujet émietté est lui-même le produit d'une certaine... là, je ne veux pas employer le terme pamphlétaire qui serait mal reflété le caractère très objectif du livre de Palti, mais j'ai dit une certaine dégénérescence du marxisme, mais qui... C'est ça, c'est en lisant Palti, moi j'ai eu le... Il m'a laissé d'ailleurs la possibilité de ce qui aurait pu être simplement un texte de commentaire, mais il m'a laissé la possibilité de le mettre en postface pour que je puisse donner mon avis, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne cette possibilité de penser ce marxisme-là, désontologisé, qui nie de plus en plus le centre de la situation, qui replace tout du côté de l'émergence du sujet et qui désontologise le réel. Il nous donne la possibilité aussi de tourner la page, d'une certaine manière, de le penser dans son ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est que Palti lui-même, j'ai découvert le personnage, quelqu'un qui doit avoir une soixantaine d'années, qui va proche de la soixantaine, donc qui a connu dans son jeune âge la dictature argentine la plus dans toute sa férocité, et qui était un militant politique extrêmement courageux et déterminé. Donc, et d'ailleurs, il me disait, c'était justement parce que nous étions persécutés, nous étions une sorte d'eschatologie, on pensait que justement nous étions très près de la révolution, puisque c'était la preuve qu'on nous persécutait, ce qui est une sorte de preuve, comme on appelle ça, c'est comme la preuve de l'existence de Dieu par son... Il y a un terme, la théologie négative, hein, je ne sais pas si vous savez, vous connaissez cet argument. Donc effectivement, il était un petit peu revenu de ça, mais on peut pas lui faire un procès en désespérance. Mais il a cette force de comprendre que des gens comme Badiou, comme Derrida, comme Žižek, leur côté très déprimant, très marxisme inhabitable, très marxisme spectral, etc. Enfin, ce qui nous sert un petit peu, ce qu'on nous surine un petit peu à longueur de journée. Alors que je pense que moi, il y a une certaine validité du marxisme-léninisme, hein, pour me faire comprendre. Hein, voilà ce que je pense, qu'il y a une validité du léninisme, je pense que ça devrait repartir. Mais si nous sommes condamnés un peu à Badiou, Žižek et consorts, c'est aussi un symptôme. C'est aussi un symptôme d'un ensemble d'un air du temps. Voilà. Et il faut le décrire. Il faut le décrire. Et justement, pourquoi est-ce que justement une des seules offres politiques qui arrivent, c'est ce populisme avec ces sujets totalement émiettés, qu'il s'agit de construire littéralement, il faut construire un peuple au lieu de comprendre en fait comment évolue l'ensemble du prolétariat. Pourquoi on est dans ce genre de stratégie un peu bancale, c'est parce que précisément il y a eu une certaine interprétation du marxisme issue de Sartre, et paradoxalement issue du contraire de Sartre qui était le structuralisme, puis d'une sorte de synthèse qui était le post-structuralisme, qui a tenu le haut du pavé et qui correspondait certainement en fait aussi à mon avis une certaine classe sociale en France. Mais c'est intéressant le fait de pouvoir l'étudier de l'extérieur. Je le fais avec moins d'objectivité et peut-être trop de passion que ne le fait Palti, et je pense sa force c'est vraiment de l'étudier scrupuleusement texte après texte. Ce qui est intéressant, c'est la problématique aussi qu'il a instaurée. Vérité et savoir du marxisme. Il a dit, face à cette crise, parce qu'en fait c'est une crise en fait de la... C'est la chute de l'URSS qui est une crise, un défi lancé en fait à la possibilité même du socialisme. En fait, il dit qu'il y a eu deux stratégies, disons, dans les gens qui ont voulu penser cette crise. Des gens se sont dit, on va sauver le marxisme comme savoir, et plus comme vérité, c'est-à-dire, on pourrait dire, comme savoir parcellaire, diverses sciences humaines. Moi, ça m'a fait penser à ce que Sèvres disait, cum grano salis de Pierre Bourdieu, c'est le marxisme en pièces détachées. Et c'est vrai que c'était une tentation de faire un petit peu de marxisme dans différentes sciences humaines. C'était la stratégie de Jensen et d'Anderson, c'est-à-dire d'un certain trotskisme anglo-saxon. Après, vous avez la tradition justement française, qui est plus, j'allais dire, plus intéressante, parce que plus métaphysique, plus drôle, enfin plus, je veux dire, plus. C'est pas parce que ce sont mes compatriotes, mais c'est vrai que je la trouve amusante. C'est l'idée de dire à la Badiou, non, le marxisme ne vaut. Je ne cite pas de mémoire, hein, c'est plus une interprétation. Le marxisme ne vaut plus comme savoir, mais il vaut comme vérité. Il vaut comme vérité de l'être, comme fidélité à l'événement, fidélité d'un parcours politique. Et vous savez à quel point, pour Badiou, compte la fidélité à l'événement qui a été pour lui la révolution culturelle. Indépendamment de l'histoire de la Chine, hein, sur laquelle on l'entend d'ailleurs assez peu. Parce que tout ce qu'on pourrait dire sur... Dieu sait qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le rapport de la Chine avec le marxisme. C'est une histoire qui n'est toujours pas terminée. D'ailleurs, pour grand dame de l'impérialisme états-unien, même si je n'ai pas d'illusion particulière, hein, je crois qu'il faut analyser ça de manière très objective. Bon, pour Badiou, ce qui importe, c'est justement cet être ouvert à l'événement qui fait sens, cette fidélité, ce sujet qui se détermine dans un parcours. On retrouve finalement la grande intuition sartrienne, c'est-à-dire cet hyper subjectivisme. Voilà. Bon, moi je crois que... ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans son retour, puisqu'on parlait de l'Amérique latine, c'est un Argentin, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est mis à la hauteur de toute la bibliographie occidentale, qui connaît ces langues-là, qui donc fait le point, explique aussi, il a deux de ses compatriotes qui sont Nahuel Moreno. Alors ce qu'il a, Nahuel Moreno, je ne connaissais pas du tout parce que je n'ai pas grand chose à voir, comme vous le savez, avec la 4e internationale, mais c'est une sorte d'hérétique du trotskisme, l'hérétique d'une hérésie. C'était le plus grand mouvement trotskiste international.
Était en Argentine,
mais qui en même temps avait rompu avec avec l'ensemble, le reste du mouvement ouvrier trotskiste. Donc c'est intéressant à analyser comme phénomène politique, parce que il faut quand même reconnaître que le Parti communiste argentin avait fait de grosses erreurs à l'époque. Il y avait. Et ça explique aussi peut-être ce succès, mais en même temps c'est un succès ouvrier réel, donc c'est intéressant d'étudier aussi comme penseur. C'est un des auteurs qui est traité dans ce livre. Et donc aussi Laclos, c'est-à-dire pourquoi justement c'est né en Argentine. C'est bien cette théorie qui nous revient comme un boomerang, mais elle est due aussi en fait à un constat qui est ce constat un petit peu désespérant qu'on formulait dans notre marxisme, j'allais dire officiel, côté français. Un autre axe central du livre, moi, qui m'a particulièrement intéressé, parce que j'ai édité récemment deux livres de Lucien Goldman, qui est un penseur extrêmement suggestif, notamment c'est le grand auteur du Dieu caché. Il est l'auteur d'une véritable méthodologie du marxisme en sciences humaines, hein, du cachet, l'ensemble de ses textes attenants. C'est pour ça, à mon avis, c'est son grand mérite. Après, il y a quelque chose qui a joué un petit peu comme un mot de passe dans les milieux gauchistes et trotskistes à partir des années 60. C'est justement à propos de cette problématique du Dieu caché. Vous savez que ça traite principalement des jansénistes, de Pascal, de Racine, ce qu'il appelle la pensée tragique jusqu'à Kant. Et c'est cette idée que du pari pascalien. Du pari pascalien appliqué à l'époque moderne selon leur propre problématique. Si vous voulez, ils étaient tellement en lutte contre un certain objectiviste mécaniste qu'ils attribuent à la Troisième Internationale. Et c'est vrai qu'il y a eu... Il y a eu ces défauts-là, théoriquement, dans ces milieux-là, où vous présentez un petit peu une succession de modes de production avec le socialisme comme avenir, comment dire, tout tracé. Même si je trouve que bon, cette théorie aussi religieuse fut-elle, a quand même une mérite de déplacer des montagnes, parce que j'imagine, quand je pense à tous ces gens qui ont participé à la résistance dans mon pays, heureusement qu'ils avaient ce... Ça me gêne un peu quand on compare ça à un article de foi. Heureusement que cette fois-là a déplacé les montagnes et qu'ils espéraient encore dans le socialisme, même si effectivement un marxisme le plus, j'allais dire, serein, lucide, devrait simplement montrer les possibilités du socialisme à l'intérieur du mode de production capitaliste et l'analyser sereinement. Bon, d'accord. Mais on avait, à partir de cette lecture de Lucien Goldman, de ce Dieu caché qui a été un best-seller de l'époque, disons dans certains milieux militants, on faisait une sorte de réaction inverse. On disait, bon, de toute façon, surtout comme c'était dans un milieu trotskiste, donc très critique de l'URSS, et donc qui jugeait que l'URSS était un pays qui n'avait plus rien à voir avec le socialisme, selon eux, ils se disaient, bon, bah, dans ce contexte-là, rien ne dit qu'on va aller au socialisme, mais comme de toute façon l'avenir capitaliste est horrible pour l'humanité, socialisme ou barbarie, il ne reste plus qu'à parier. Il ne reste plus qu'à parier sur le socialisme, un peu comme Pascal, vous connaissez le pari pascalien. De toute façon, qu'on croit en Dieu, qu'il existe ou pas, il suffit de vous mettre à genoux et il vaut mieux penser qu'il existe. Ce pari pascalien, ça vous paraît un petit peu prosaïque? Ça a été une sorte de nom de code, de mot de passe dans certains trotskistes. Ça existe encore chez Badiou, vous avez encore une certaine interprétation. Et là encore, on retrouve un peu cet aspect désontologisé, c'est-à-dire parce que je sache, justement, après la chute de l'URSS, on était vraiment dans des théories apocalyptiques, eschatologiques, où vraiment on avait vraiment l'impression que bah, c'était Fukuyama qui avait raison, hein, la fin de l'histoire à la. Tout était foutu. Et puis quand on voit aujourd'hui, justement, la première révolution post-mur, comme par hasard, elle a eu lieu en Amérique latine, c'est quand même le Venezuela. Même le fait que la Chine a fait une grande nappe. Bon, le fait même, je ne sais pas, par exemple, la Corée du Nord aujourd'hui parle de socialisme, puisque avant c'était le Chuché, c'était l'indépendance, après ça a été l'armée en avant, parce que c'est, vu les conditions d'encerclement. Aujourd'hui, l'arme nucléaire sanctuarise le pays et permet de reparler de socialisme. On pourrait citer des tas d'exemples. Ils sont limités, parcellaires, ils sont locaux, mais l'idée de socialisme revient. D'ailleurs, il s'agit de traiter ces idées avec beaucoup de... Justement, un peu dans cet esprit de Marietzegui, avec une attention profonde dans les détails, avec beaucoup de justice et d'honnêteté, parce que je crois qu'à partir du moment où on critique une expérience socialiste, c'est tous les autres qui en pâtissent. Hein. Aujourd'hui, tout ce qu'on laisse dire sur le Venezuela, par exemple, nous affecte nous, parce qu'on laisse une propagande énorme. Moi, je suis particulièrement monté sur un cheval de bataille qui est la propagande qu'on peut sortir au sujet de la Corée du Nord, parce qu'aujourd'hui il y a tellement pas de pression, si vous voulez, de l'ensemble de la société civile que les médias vous ressortent la propagande directe qui vient des services secrets sud-coréens à propos du Nord, dont on connaît, il est vrai, pas grand chose, mais simplement il faut quand même personne n'a dit qu'il fallait importer le régime nord-coréen en France, c'est l'avis de personne. Mais déjà que ce pays a droit à sa souveraineté, ça c'est une évidence. Et en même temps qu'il faut comprendre ses caractéristiques de ce socialisme. Bon, je crois que tout ça pour dire que justement, à cette époque où nous sommes en train justement de, de, de comprendre que le socialisme est toujours à l'ordre du jour, que il y a différentes expériences, différents moments, que nous sommes plus dans cette dans ce caractère apocalyptique. Je pense qu'on peut commencer à tourner la page et à revenir à un marxisme, léninisme bien compris. Je lui donne un autre exemple parce que j'aurais dû commencer par là. Derrida, juste après la chute du mur, avait écrit un texte fameux qui s'appelle Spectre de Marx. C'était quoi l'argumentaire de Spectre de Marx ? C'était totalement dans l'air du temps, en fait. Si on voit, ce sont des textes qui aujourd'hui nous apparaissent totalement datés, totalement conjoncturels. C'est l'idée que, bon, bah, toujours pareil, le marxisme, c'est la même idée, c'est même pas la peine d'essayer de se sauver en tant que savoir parcellaire. De toute façon, il n'existe plus que comme vérité ultime, c'est-à-dire l'idée de justice. Malgré tout, malgré le fait qu'on ne puisse plus se rattacher à rien, eh ben, le marxisme, c'est quand même l'idée de justice. Et finalement, dit Derrida, c'est la seule chose qu'on ne puisse pas déconstruire. C'est l'idée de justice. Donc c'est à la fois un hommage, mais un hommage totalement, j'allais dire, un peu pervers, c'est-à-dire... voilà. Donc, tout ça explique un peu la situation dans laquelle on est. Et voilà un des intérêts de lire cet auteur sud-américain qui, pour moi, a fait la meilleure synthèse, parce que la plus honnête, de ce marxisme-là. Et je pense que tant qu'on n'aura pas vraiment digéré ce qu'ils ont dit, tant qu'on n'aura pas répondu concrètement, on n'aura pas réalisé les conditions pour un marxisme-léninisme concret, adopté à notre époque et bien compris, et la reconstitution d'un parti communiste de masse et de classe, tel qu'on le souhaite, je pense, le souhaite beaucoup de gens dans cette salle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien.
Si vous n'êtes pas complètement réfrigéré, ce qui semble être le cas, on peut prendre quelques questions et puis on terminera la séance comme ça. Oui ?
Mais moi, je me demandais quels sont les auteurs latino-américains marxisants. Des auteurs de romans.
Des auteurs des littéraires.
Oui, oui, oui.
Des littéraires, bon. Vous avez, vous savez, plus ou moins comme, pas tellement marxisant, mais il a été un très grand lecteur de Marx, Carlos Fuentes, par exemple, non ? Qui est resté un homme progressiste, avec une vision extrêmement intéressante, extrêmement juste aussi, parce que, comme vous savez très bien, et comme tous savent ici, Vargas Llosa est passé de tiède réformiste à ultra-réactionnaire. Non ? Donc. Mais Carlos Fuentes est resté fidèle à ses idéaux jusqu'à la fin. Un autre littéraire... Oui.
Fuentes.
Oui. Si vous lisez la critique qu'il fait de la révolution cubaine, de la révolution mexicaine, dans La muerte de Artemio Cruz, ou dans La plus limpide région, vous voyez que il dénonce la révolution trahie, cette révolution mexicaine trahie, prostituée, la révolution prostituée. Donc Fuentes est, comment dire, un écrivain avec un sens très fort de la critique, historique surtout, et politique, sociale, culturelle aussi. D'après moi, il a été l'écrivain du boom le plus complet. Le plus complet. Et le plus, peut-être le plus décent. Avec García Márquez.
Ouais. Paul ?
Je pense que c'est sûr que c'est indispensable de lire les productions des différents marxistes, de différents. Et donc là, en ce qui concerne l'Amérique latine, et surtout, je vais parler de Maria Trigue, c'est évident qu'il n'est pas question d'un calque, de faire une copie de quoi que ce soit. Ça, c'est un des premiers principes de ce que j'ai compris du marxisme. Bon. À partir de là, je ne comprends pas quand on parle de marxisme orthodoxe et de marxisme hétérodoxe. Donc à partir de là, vous avez parlé de marxisme hétérodoxe. Ce que je souhaiterais savoir, ce n'est pas de façon intime tout ce qu'il a écrit, c'est est-ce qu'il a des points de vue critiques sur tel et tel point du marxisme ou pas.
Oui.
Et donc, et c'est ça, mais à partir de là, pourquoi dire, qu'est-ce que veut dire hétérodoxe?
Alors, la notion.
Je n'ai pas terminé. Oui.
D'accord.
Donc là, c'est un premier point.
Ouais.
Et je pense que, il y a tout à l'heure aussi, il a été question du marxisme français, des choses comme ça. On est, pour moi, dans du délire. Bon. L'autre point, c'est ce qui était important, et ça, je ne connais pas suffisamment, dans le marxisme arrivant en Amérique latine, ce sont des ouvriers qui amènent ces idées, mais d'un côté, ils ont un vécu d'ouvrier, et de l'autre côté, ils sont porteurs d'un projet colonialiste. Et cette contradiction-là, comment elle a été vécue, résolue en Amérique latine, parce que je n'ai pas entendu parler des indigènes d'Amérique latine. Je n'ai pas entendu parler des esclaves en Amérique latine. Or, ces militants communistes, comment ont-ils approché ces problèmes-là?
Alors,
le troisième point, ouais, c'est dans les années 60 où sont constitués des partis communistes en Amérique centrale et latine, survient le débat d'un mouvement communiste international du début des années 60. Et donc là, c'était une situation critique qui va être un révélateur des engagements des différentes organisations communistes. Et donc là, vous avez parlé de partis qui suivaient Moscou, d'autres qui ont été vers les guérillas. Je pense que c'était un moment important qui permettrait de discuter des organisations communistes d'Amérique latine et centrale.
Bien sûr. Alors, je vous réponds. En ce qui concerne la première distinction entre hétérodoxie et orthodoxie, dans le cas de Mariátegui, c'est parce que, évidemment, il n'a pas le marxisme eurocentré aussi. Son marxisme est un marxisme national, qui veut être national et continental dans la vision latino-américaine. C'est ça qui le distingue des nombres de théoriciens marxistes. C'est-à-dire qu'il avait compris aussi la question nationale, qu'il avait compris la question latino-américaine, parce qu'il n'était pas un nationaliste obtus, donc il voyait au-delà des frontières, et donc en ce qui concerne les autres populations, on n'a pas eu le temps, j'ai comprimé beaucoup mon intervention, mais si vous lisez les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne, vous voyez qu'il y aura un chapitre qui a pour titre « El problema del indio », le problème de l'indien. Donc, en ce qui concerne la question ethnique que j'ai mentionnée, je me référais à ça, même si je n'ai pas dit, si je n'ai pas développé avec plus de temps. La question ethnique ne se réfère pas seulement aux Indiens, mais à tout ce mosaïque d'ethnies qui compose le continent et la réalité. Même si on doit dire, pour une question d'honnêteté intellectuelle, que Mariátegui était aussi un fils de son époque et un fils de ses préjugés. C'est-à-dire qu'il n'avait, il regardait, il voyait avec un œil pas bienveillant, par exemple, les populations noires. Les afrodescendants, il les voyait Il disait, je le cite, disons plus ou moins, il disait que on ne pouvait pas faire une révolution si on comptait seulement sur les afrodescendants, parce qu'il était très paresseux et très sensuel. Donc l'Indien était le facteur par excellence de lutte pour sa libération et son émancipation. Comme vous voyez, il y a les préjugés de l'époque, mais cela n'a pas empêché Maria Tegui de voir comment ces populations ethniques, ces populations, ces ethnies étaient des victimes de l'exploitation de la structure capitaliste de la société et raciste de la société. Donc, si vous êtes satisfait de ma
réponse. Oui, on trouve la même chose chez Jack London, hein, ouais. Dans ce préjugé raciste aussi qui perdure. Hein, ça. Ouais. Ce qui nous choque, nous, évidemment, mais ouais. C'est... il y a des décalages hein, dans l'idéologie. Hein, c'est...
Ouais. Et c'est par rapport à la partie théorique d'Amérique latine, du Pérou, surtout. C'est González Prada, c'est avant Maria Tegui, et c'est González Prada qui a fait sa formation. En France,
ouais.
À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et c'est lui qui parle de l'anarchisme marxiste, ça commence. Mm. C'est l'époque, je crois, que Maria Tegui, il l'a connu.
Exactement. Quand il était directeur de la Bibliothèque nationale.
C'est lui qui parle de. Et ce que s'appelle le romanticisme anti-jégéiste, parce que c'est à l'époque, c'est pas bien l'origine de la courant anti-jégéiste au Pérou jusqu'à 1940-50. C'est la base de Maria Tegui à propos du problème de l'indio en.
Exactement.
Comment est-ce que tu vois ça par González Prada comme avant Maria Tegui, qui est au Pérou, en Amérique latine, hein? Parce que González Prada est très connu.
Exactement.
Même aujourd'hui, en France, à l'Université de Bordeaux, à une réunion chaque deux ans avec l'université, avec un historien très connu en France, qui s'est produit un certain un séminaire sur. L'importance de González Prada par rapport à en relation à Maria Tegui. La deuxième question, c'est par rapport à César Vallejo, que tu l'as cité, qui a vécu ici, qui est mort ici, après deux ans qu'il a décédé Maria Tegui parce que César Vallejo, César Vallejo était marxiste.
Exactement.
Il a promis de livres.
Ouais.
La littérature, la poésie.
Il a été notre théoricien, si, si.
Théâtre marxiste. Ouais. Ce monde, la théorie peruvienne, latino-américaine, bien marxiste. Ouais. L'autre question, c'est par rapport à les éditoriales. Les éditoriales en Amérique latine. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui arrive à la Chautine, etc. Mais 1970, avec 1970, l'Union soviétique, même Pékin, a édité beaucoup de
Livres. Les traductions. Les traductions. Les traductions en espagnol.
Ça coûtait pas cher, une collection complète, des Marx.
Oui, les éditions Progrès de Moscou et les éditions de Pékin aussi.
L'Union soviétique, mais. Chine, et aussi, après, c'est. À l'époque d'Allende, si, la révolution Allende, la éditoriale chilienne a commencé à produire des livres. Je vais citer plus.
On va s'arrêter là.
Ok. Alors, la première question. Évidemment, González Prada est un phare, est un inspirateur pour cette jeunesse de l'époque. Pour Maria Tegui Vallejo et tous les autres. Parce que, d'après moi, González Prada a été le meilleur critique du Pérou. Le meilleur critique de la situation réellement existante. Le meilleur critique de l'oligarchie comme classe dominante péruvienne. Donc, c'était un anarchiste à sa façon, à modo suo, à su modo, et c'était surtout un homme très engagé du point de vue politique. Et il a donné cette influence très importante à ce groupe de jeunes qui était en train de constituer cette petite élite intellectuelle qui d'ailleurs manifestait une sorte de rechange générationnel. Non? Ça, en ce qui concerne González Prada, figure centrale, absolument. En ce qui concerne la deuxième oui, en ce qui concerne Vallejo, que tu m'as demandé la deuxième, Vallejo et Mariátegui sont deux camarades. Vallejo et Mariátegui sont deux intellectuels qui développent le marxisme. L'un, Mariátegui, peut-être plus complet que Vallejo, parce que Mariátegui avait une vision du monde extrêmement large. César Vallejo est, à sa façon, un théoricien marxiste de la littérature. Et pas seulement de la littérature locale, mais de la littérature européenne, de ce qui se passait aussi dans le théâtre russe, dans la littérature russe, etc., etc. Donc, César Vallejo, et ce sont deux faces d'un développement intellectuel, non, et deux contemporains, d'ailleurs. La troisième question, rapidement, oui, c'est vrai que les éditions Progress et les éditions de Pékin ont fait diffuser des éditions de Marx et Engels et des grands théoriciens en espagnol. Mais elle n'avait pas l'appareil critique qui avait été développé par les éditions siglo XXI, par exemple, par la Biblioteca del Pensamiento Socialista, dirigée par José Aricó. Donc, elles étaient des traductions extrêmement correctes, extrêmement lisibles, mais sans appareil critique. Donc, le mérite, c'est pour ça que j'ai cité José Aricó comme un intellectuel qui, disons, qui représentait une sorte de jalon d'un côté en ce qui concerne la traduction et de l'autre en ce qui concerne la théorisation. Disons que Aricó était un théoricien traducteur ou un traducteur théoricien, comme tu veux.
Bon, écoutez,
Je voudrais juste préciser une chose sur César Vallejo, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, pour ceux qui connaissent évidemment pas aussi bien l'Amérique latine que vous. César, on pourrait dire qu'à notre grande, pour notre honneur, il est mort dans notre pays, et pour notre grande honte, il est mort de faim dans notre pays. Voilà. Voilà, un poète dont on ne parle pas beaucoup.
Mmh. Écoutez. Non, mais attendez.
À Arguedas, c'est extrêmement important aussi.
Ah oui, mais il y a trois questions.
Ouais.
Bon, alors on a trois questions, mais très très brièvement, d'accord. Alors la première, c'est fait.
Non, c'est que vous placez Arguedas dans
Vallejo. Ah, c'est un écrivain, ethnologue, c'est un grand connaisseur de la réalité péruvienne, je le situe à gauche, complètement à gauche.
Oui, peut très brièvement.
Hein. C'est sur l'hétérodoxie de Mariátegui, un peu son rapport à Gramsci. En fait, c'est vrai que le parallèle est assez fréquent. On a parlé déjà il y a 30 ans, peut-être très bien Gramsci. C'est transposer les choses à la fois la technique, mais aussi des références qui ne sont pas les propres marxistes, c'est-à-dire Sorel, Herriot. Les auteurs un peu hétérodoxes, c'est-à-dire les socialistes, les anarcho-syndicalistes anti-marxistes, guillemets, révolutionnaires, etc. Et puis, aussi, comment finalement, il a réussi à rentrer dans le débat, son temps, c'est-à-dire du débat sur des thèmes sur le communisme inca. C'est vrai que le régime inca était tout esclavagiste, impérialiste qu'il était, c'était une forme de communisme, parce qu'il y avait l'Eilou, et que l'Eilou, c'était pendant du mire russe, c'est-à-dire qu'il y avait du communisme, tout est là. et lui a comme semaine de recadrer les choses. Après, sur l'indigénisme, je ne sais pas, il y a un très bon bouquin de Christian Debert il y a longtemps en France là-dessus, quoi, indigène, enfin, c'est un bien paysan, mais il est quand même très ambigu, même sur les théories des lignes, tout comme l'unité locale, etc., ce qui avait apparu le Chiapas, tout ça aujourd'hui dans les Andes. Il n'a pas de théorisation là-dessus. Et puis, il y a les mêmes défauts de Marchi, c'est-à-dire qu'il s'intéresse surtout, même s'il ne théorise pas l'hégémonie ou les blocs historiques, il a très peu d'analyse économique des rapports réels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse de classe, de principe de plus-value et tout, mais ils sont très globales comme Marchi.
Oui, parce que disons que.
Il y a des questions de domination culturelle et de relations.
Ouais. Oui. Oui, parce que disons qu'on ne doit pas oublier qu'il était autodidacte. Donc il avait les failles, les mérites et les démérites des autodidactes. Donc d'un point de vue, oui, et d'un point de vue aussi de la réception du Marx économiste, il y avait aussi un décalage à l'époque parce que pas mal d'ouvrages de Marx n'était pas traduit en espagnol, ou bien certains ouvrages de Marx n'étaient pas traduits complètement en français ou dans d'autres langues pour être lus. Parce que, par exemple, dans le cas de Mariátegui ne lisait pas l'allemand, mais lisait l'italien et le français. Donc, pour lui, les deux langues étaient des véhicules de connaissance. C'était un peu ça, les limitations de
l'époque. C'est la dernière.
Moi, je voudrais revenir sur l'hétérodoxie. Vous dites que c'est un marxiste qui veut être national. Et je pense que vous oubliez que Marx n'est pas anti-national.
Non, je ne disais pas ça. Ouais.
Il est à la fois national et international.
Ouais.
Il a défendu, quand on lit sa correspondance, il a défendu l'indépendance de l'Italie par rapport à l'Autriche. Il a défendu l'indépendance de la Hongrie par rapport à l'Autriche. Et il en fait des longs développements. Il a aussi défendu la Pologne, tout en disant que c'était la noblesse polonaise qui était à l'origine de la lutte de la Pologne des Polonais contre la Russie. Il l'a défendu tout de même. Hein. Donc je crois que c'est le débat qu'il y a eu ensuite entre les soviétiques et les trotskistes, un débat complètement tronqué dans ce qui a été publié, qui a fait oublier cet aspect-là.
Oui, je voudrais juste préciser par rapport à ce débat qui a eu lieu, l'hétérodoxie, c'est par rapport à une orthodoxie. Dans orthodoxie, il y a doxa. Doxa, c'est l'opinion. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu. On parle d'hétérodoxie, je pense que c'est pour me faire un peu l'avocat de ma personne à ma droite, c'est hétérodoxie par rapport à une doxa. Par rapport au marxisme réduit à une orthodoxie, mais effectivement, de toute façon.
On va faire un débat là-dessus, je crois.
Sur la réalité de l'attention à la question nationale, on sera tous d'accord. Ouais.
Non, mais. On va peut-être s'arrêter tout doucement quand même, hein. Il y a quelques livres à vendre, donc voilà. Mais on pourra faire un débat là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'abord, j'étais très ignorant, donc j'ai l'impression d'être un peu plus intelligent, là. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne sur toutes ces questions par rapport à l'Amérique latine, parce que moi, j'avais par exemple une question. J'ai eu le sentiment que, dans tout ce que tu disais, alors évidemment, tu as été amené à comprimer, on parlait surtout de l'Amérique latine hispanique, je dirais, et on a très peu parlé du Brésil, par exemple. Voilà. Donc, il faudra peut-être qu'on consacre conférence à la question du Brésil, qui est quand même, je ne sais pas combien, 250 ou 200 millions d'habitants, qui est la plus grande puissance de la moitié du continent. Voilà. Bon. C'est une suggestion, donc on met ça dans nos tablettes. Henrik, tu peux noter. Hein, voilà. Voilà. Bon, écoutez, pour ce soir, je crois qu'on c'était. Merci, parce que vraiment,
merci,
je crois qu'on a fait beaucoup de connaissances. La prochaine, donc, c'est le 22 janvier.
Non.
Si. pardon, le 17 janvier. Alors le titre changera peut-être, mais c'est le 17 janvier. Puisqu'on ne se reverra peut-être pas, je vous souhaite une bonne année, hein, ça se fait, et un joyeux Noël, puisque vous aurez tous des cadeaux, vous l'avez bien mérité. Et donc on se revoit le 17 janvier, et voilà, donc vous aurez tout ça sur le site. Alors comme Aymeric a filmé, on aura une version image de toute cette conférence. Et merci à toi Louise et à Aymeric là, pour votre contribution importante.
Merci à vous et à tous les assistants.
Voilà. Je suis complètement frigorifié, voilà.
Il faisait froid parce qu'il y a une fenêtre ouverte.
Tu crois ?
Bien sûr. Moi j'étais prof de littérature.